France Musique.
Tout au long des 5 émissions que depuis le début de l'été nous consacrons à Alain Badiou, Wagner a été tellement présent que vous aurez pu croire notre penseur exclusif peut-être dans son amour d'adolescence. Eh bien non, les goûts sont choses tellement surprenantes que ceux de notre homme englobent à peu près tout l'opéra et même ce genre si futile qu'on appelle le lyrique italien. Alain Badiou, philosophe et mélomane, épisode 6, l'opéra, mais sans Wagner. C'était à Aix-en-Provence en 1955, sous la direction de Hans Rosbaud, le célèbre terzettino du premier acte de Così fan tutte de Mozart, Suave sia il vento. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Je ne dis pas que c'était à cette représentation, mais à Aix, au début des années 50, pour cette production de Così, vous y étiez?
Absolument. Oui, j'étais absolument à cette production de Così fan tutte. Je me souviens très bien, c'est un épisode de mon adolescence. J'y suis allé tout seul depuis Toulouse à Aix-en-Provence sur ma Vespa.
Ah bon?
Oui, oui, absolument.
C'est pourtant pas la porte à côté.
Vespa qui m'avait été offerte par mon père parce que j'avais eu le prix du concours général de français en première. Ah, voilà.
Belle donc récompense.
C'était un véhicule stylé, si je puis dire. Et donc, je me souviens de cette expédition solitaire. J'avais moi-même demandé si on pouvait pas me réserver une place pour ce festival d'Aix-en-Provence dont j'avais entendu parler par des amis. Et ça a été pour moi une expérience très, musicalement alors, une expérience très très forte pour deux découvertes vraiment, Così fan tutte, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai vu et entendu pour la première fois, alors que j'avais joué son ouverture un peu avant, mais l'opéra lui-même, je ne le connaissais pas vraiment. Et c'est là aussi que j'ai découvert, nous en avons parlé tout à l'heure, le quintette avec deux violoncelles de Schubert. Et ce sont deux impressions musicales extraordinairement fortes, dont je peux encore me souvenir de l'émotion de ces deux moments à Aix-en-Provence, que je découvrais aussi d'ailleurs, je n'avais jamais été au festival. Alors il y avait des décors de Balthus, il y avait toute une... C'est un peu un Così fan tutte historique, ouais, que j'ai assisté par hasard. Et j'ai été ravi, conquis. Et je pense que ça a beaucoup joué quand même dans ma passion pour l'opéra en général. Wagner étant resté en quelque sorte un continent séparé. Mais l'opéra en général a été ouvert pour moi par cette représentation de Così fan tutte.
Lorsqu'on a entendu un Così comme celui-ci, évidemment, ça peut marquer. On l'a déjà écouté, Così, la semaine dernière. J'ai l'impression qu'il fait partie aussi des œuvres qui restent chez vous absolument, enfin, comme fil conducteur finalement de toute votre vie de mélomane.
Tout à fait. C'est une œuvre qui a circulé, qui s'est maintenue comme ça. Je l'ai revue périodiquement dans des montages extrêmement différents. Très simple, d'autres plus sophistiqués. Je l'ai aussi regardé un certain nombre de fois à la télévision, dans des reportages variés. C'est évidemment, de ce point de vue, non pas l'opéra de Mozart que j'estime le plus grand. D'une certaine façon, je pense qu'il y a dans Don Juan quelque chose qui transcende même l'opéra de Mozart lui-même, enfin, qui est une trouvaille ou une invention d'un autre ordre. Mais celui auquel je suis le plus sentimentalement attaché, voilà.
L'opéra, c'est un genre ancien, enfin c'est un genre de répertoire. Le répertoire s'est constitué tout au long, évidemment, de l'histoire de l'opéra. C'est fixé finalement aujourd'hui. On sait très bien qu'on joue très très peu d'œuvres nouvelles. Ça arrive une fois de temps en temps. Il y a même des cahiers des charges dans certains opéras de ce côté-là. Mais enfin, il y a cet aspect-là qu'on regarde des œuvres du passé. Est-ce que c'est pas une limite du genre? Est-ce que c'est sa richesse? Vous voyez comment ça?
Écoutez, je crois que il y a dans l'histoire de l'art en général des constructions, des genres, des modules qui apparaissent à un moment donné et qui finalement, au long du temps, disparaissent ou s'affaiblissent. Un exemple qui me paraît très frappant, c'est la tragédie grecque. La tragédie grecque, elle apparaît avec Eschyle, elle se développe avec Sophocle, avec Euripide. Elle a quelques résonances postérieures dans l'Empire romain avec les tragédies de Sénèque. Et puis, d'une certaine façon, c'est fini pour des siècles et des siècles. Et quand les classiques français, Corneille, Racine, reprennent le modèle grec, on voit bien qu'ils font quelque chose de complètement différent, en réalité. Et que donc, ça reste quand même comme un moment de création, je dirais pas fermé sur lui-même, mais proposé pour l'éternité, si je puis dire, à l'humanité. Il est possible que l'opéra se soit fini. Je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que l'opéra se soit fini. Mais il ne faut pas prendre ça mélancoliquement. Au fond, les séquences de l'œuvre d'art, il y a un moment donné aussi où la grande peinture figurative, ça a été fini, et toutes les œuvres d'art composent des séquences historiques qui ont des commencements et des fins, et qui sont des choses qui nous sont léguées. Voilà. Il n'y a pas plus à être étonné de ce qu'il faille reprendre Così fan tutte aujourd'hui, qu'à s'étonner que nous admirions des peintures du XVe siècle. Elles aussi, elles sont là, elles nous sont léguées. Les deux admirations se conjuguent. Alors évidemment, la musique, c'est toujours particulier, toujours pour cette raison de l'être et de l'existence. C'est que pour la faire exister... il suffit pas de la partition, le tableau, lui, il est là, mais la musique, elle n'est pas là à proprement parler. Et donc, il faut interpréter, il faut réinterpréter ce legs du passé. Sur l'opéra, j'ai grosso modo le sentiment que tel qu'en tout cas nous le connaissons, tel qu'il nous a été légué de Monteverdi, peut-être à Messiaen ou peut-être à Berg, enfin laissons ça en suspens. Voilà, c'est un cadeau magnifique que l'histoire nous fait. Il n'y a pas à grogner là-dessus. Et puis, s'il faut inventer autre chose, on le verra.
Un choix qui est le vôtre, Alain Badiou, bien évidemment, pour toutes les musiques qu'on va écouter aujourd'hui, qui m'a fort étonné. Vous vouliez entendre un extrait du Barbier de Séville de Rossini. Je vous dirai après pourquoi. Mmh.
Siete buono, 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 siete
Le final du premier acte du Barbier de Séville de Rossini, version Claudio Abbado, totalement ébouriffante d'ailleurs, en 1971 avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Et une distribution, je ne vous dis pas, il y a tout ce qu'on voulait là-dedans de bon, Hermann Prey, Teresa Berganza, Luigi Alva et quelques autres encore. Pourquoi le Barbier Alain Badiou ?
Eh bien, je voulais initier cette entrée dans l'opéra en rappelant malgré tout que l'opéra a une pente du côté du mélodrame et de la tragédie, indubitablement. Je dirais même qu'il a, au XIXe siècle, une vie très profondément liée à celle du développement du mélodrame au théâtre, et que ça ne sont que amour perdu, mort tragique, torture, exil, etc. Alors, c'est une tonalité de l'opéra qui lui est presque consubstantielle, parce que c'est quand même comme ça, de façon très majoritaire, dans Verdi, dans Puccini, mais aussi, finalement, dans Léon Cavello, etc., etc., dans Mastroianni, ouais. Et même dans Berg, en fin de compte. Alors, je voulais rappeler qu'il est aussi ponctué par une sous-tradition, qui est une tradition, au contraire, de débordement populaire, de joie, de quelque chose comme de la plaisanterie musicale, aussi, et que cette tradition a donné un certain nombre de chefs-d'œuvre, y compris inattendus. Parce que nous avons des éléments comme ça, jusque chez Wagner dans les maîtres chanteurs, en particulier le deuxième acte, la totalité du deuxième acte. Nous avons un véritable chef-d'œuvre du genre avec le Falstaff de Verdi, et nous avons le Barbier de Séville, qui inaugure cette série des opéras à la fois joyeux et un tout petit peu subversifs, comme ça. Alors voilà, c'était pour rappeler que l'opéra, qui en effet est très mélodramatique dans son essence la plus affichée, est aussi capable d'installer sur la scène le divertissement joyeux.
Ouais, et puis dire quelque chose aussi, que l'opéra c'est pas simplement de la voix, c'est pas simplement de la musique, et en son acception la plus haute, la plus noble et élevée, c'est avant tout du théâtre.
Et oui, et justement, et le comique, par excellence, demande la théâtralité, il exige la théâtralité, donc c'est la forme suprêmement théâtrale de l'opéra que ces opéras joyeux, comiques, singuliers et subversifs. Ça rappelle aussi la théâtralité essentielle de l'opéra. De ce point de vue-là, d'ailleurs, une remarque qui me frappe depuis toujours, c'est à quel point le livret est important dans l'opéra. Au fond, même des tentatives musicales honorables échouent quand le livret est exagérément ridicule. En vérité, certains opéras survivent en dépit de ce ridicule à cause de quelques très grands interprètes. À mon avis, c'est le cas de la Norma, par exemple, et de quelques autres de ce genre. Si on regarde vraiment la structure, la texture générale de cet opéra, il ne tient pas. Mais il y a des moments si magnifiques qu'il survit en souvenir de la Callas ou de quelques autres. Je pense que la théâtralité s'exprime aussi dans cette importance considérable du livret. Et en réalité, il y a eu des conjonctions comme cela, très importantes. Par exemple, celle de Verdi et de Boïto, qui donnent quand même les opéras terminaux de Verdi qui sont remarquables. Mais aussi la rencontre de Mozart et de Da Ponte a donné les chefs-d'œuvre véritables de Mozart. Et puis la rencontre de Strauss et de Hofmannsthal, à l'autre bout de l'histoire de l'opéra, est aussi la raison d'être d'un certain nombre de chefs-d'œuvre. Donc le théâtre, c'est ça, c'est cette complication d'un livret nécessaire, d'une théâtralité qui oblige à revoir périodiquement la représentation de l'opéra, et d'une musique qui quand même correspond à un flot musical extraordinaire. Un opéra, c'est tout de même 2 heures ou 3 heures de musique ininterrompue. C'est en excès absolument sur... Par rapport à ça, une œuvre de musique de chambre, une symphonie, c'est pas grand-chose. Quelquefois, on l'oublie parce qu'on est pris par la théâtralité, justement. Mais la difficulté de l'opéra, c'est que la durée musicale doit suivre la durée de la théâtralité, absolument. Et que c'est pas si facile que ça. Et donc, les réussites de l'opéra composent un corpus absolument et résolument fini. Et moi qui ai vu beaucoup d'opéras, j'ai quand même le sentiment, je dirais pas d'avoir tout vu, mais presque quand même, le sentiment d'avoir presque tout vu, et que par conséquent, maintenant, quand je vais à l'opéra, c'est pour revoir, presque toujours, 99 fois sur 100.
Mais c'est agréable aussi de revoir.
Ah mais c'est formidable, c'est comme le théâtre, ça. Ouais. C'est aussi parce que là, nous sommes absolument peut-être encore plus qu'avec l'orchestre, dans la représentation, c'est-à-dire dans l'existence. On refait chaque fois exister l'opéra. Et ça a une conséquence aujourd'hui un tout petit peu muséographique quand même, c'est que de plus en plus, le personnage le plus important d'une représentation de l'opéra, c'est le metteur en scène. On finit par dire l'opéra d'un tel, et alors un tel, c'est pas le compositeur, c'est pas le chef d'orchestre, c'est pas le chanteur, c'est le metteur en scène. Ça, c'est très caractéristique, à mon avis, du côté désormais muséographique de l'opéra, c'est-à-dire le fait que l'opéra comme tel est accompli, ça n'est plus une création. Au fond, il y a encore de très honorables opéras qui sont écrits, mais c'est pas ce qui compte vraiment. Et donc, l'être est donné une fois pour toutes. Il ne reste plus que l'existence. Le chef de l'existence, c'est le metteur en scène. Voilà.
Au premier acte d'Othello de Giuseppe Verdi, c'était le grand duo d'amour entre Desdemone et Othello, Ervanelli et Ramon Vinay dans cette version signée Arturo Toscanini. Oui, ça gratte un peu, c'est un peu ancien, mais il y a cette voix de Ramon Vinay qui est encore là, et surtout que vous avez vu en scène à la Badiou.
Oui, j'ai entendu Ramon Vinay d'abord à Bayreuth, dans Tristan. Et ensuite, je ne sais plus exactement quand, mais peu de temps après, dans Othello, justement. Sa présence dramatique et vocale était très impressionnante. Très impressionnante. En particulier, il faisait un Tristan extrêmement compacte comme ça. C'était un Tristan dont la passion et dont le sentiment en même temps de l'implacable nécessité des choses était quasiment visible dans la présence et dans le chant, avec une voix un tout petit peu rauque comme ça, qui n'était pas une voix de ténor clair, ça, qui était une voix, mais qui avait une intensité dramatique très, très remarquable.
Mmh. Et quelque chose entre, évidemment, Verdi et Boïto pour les derniers grands opéras, cet Otello-là, il y a toujours souvent quelque chose à l'opéra aussi qui est un texte antérieur. Là, on a évidemment l'Otello de Shakespeare qui sert en quelque sorte de référence à cette œuvre-là, comme si les grands opéras se construisaient souvent sur une sorte de mythe ou de texte, enfin quelque chose avant finalement qu'il s'agit de reprendre très longtemps après, de magnifier autrement.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je crois que l'opéra a été en réalité la grande cérémonie bourgeoise. Et c'était plus que de la musique, du théâtre. D'abord, l'opéra, c'est déjà, lui, un bâtiment, c'est déjà un ensemble, c'est une représentation sociale, ce sont des loges, ce sont des gens costumés, ce sont... L'opéra, c'est aussi une représentation de la société par elle-même, médiée par la culture. Et alors, plus cette culture est une culture partagée, à la fois lointaine et assurée, certaine, plus elle est efficace. Et est évident qu'il y a un grand nombre d'opéras qui sont tirés d'une manière ou d'une autre d'œuvres littéraires, quelquefois très anciennes. Ça peut être l'Electra de Strauss tiré de l'Orestie d'Eschyle. Ça peut être le Don Juan de Mozart tiré à la fois de son origine espagnole et de Molière. Ça peut être le Falstaff de Shakespeare. Ça peut être, etc. Il y a un pillage, si je puis dire, des référents culturels par l'opéra. Et puis, ça peut être Moïse et Aaron de Schoenberg. Donc, ça se poursuit jusqu'aux formes les plus contemporaines de l'opéra. Et bien que l'opéra, c'est une combinaison très complexe dans laquelle la société se donne la représentation de ce dont elle a été capable en matière de création culturelle. Et donc, tout est rassemblé. Nous avons effectivement le théâtre, nous avons les grands référents culturels, y compris mythologiques, y compris la Bible, y compris le grand passé grec. Nous avons la musique sous toutes ses formes, nous avons la présence des acteurs, nous avons le décor, nous avons le lieu. Et nous avons aussi, par exemple, la danse, puisque un grand nombre d'opéras, particulièrement au XIXe siècle, comportaient des prestations du corps de ballet local.
Avec lesquels on a parfois beaucoup de mal aujourd'hui dans les mises en scène, d'ailleurs. On ne sait plus quoi en faire.
Eh ben non, effectivement, mais parce que d'une certaine manière, cette symphonie est déréglée. Mmh. Hein. C'est cet hommage que la bourgeoisie se rend à elle-même est un peu daté. Je pense que, comme beaucoup de choses de l'histoire de la bourgeoisie, la guerre de 14 représente une coupure. Après, c'est plus pareil. Même l'opéra n'est plus exactement ce qu'il a été. Nous avons affaire à une société plus inquiète, plus déchirée, plus aussi consommatrice et vouée à l'immédiat, au contemporain, à ce qui se donne. Et ces grandes cérémonies qui requièrent quand même une stabilité, une conscience de soi, de la domination, un respect des hiérarchies. On sait que les gens qui sont dans les loges et les gens qui sont au poulailler, c'est pas les mêmes, voilà, et c'est accepté par tout le monde. Et cette cérémonie, elle a atteint son apogée à la fin du XIXe siècle, mais je crois qu'aujourd'hui, elle est un peu déréglée. Et elle est devenue, je pense, un musée d'elle-même. C'est-à-dire, c'était déjà un musée de la représentation culturelle, maintenant c'est un musée de musées. Voilà. Et encore une fois, on retombe sur le fait que du coup, c'est la théâtralité qui l'emporte. Alors, bien sûr, il faut des grands chanteurs, etc., mais c'est le metteur en scène, c'est la théâtralité, c'est comment faire encore exister cette cérémonie, alors qu'en réalité, elle a cessé d'être inventive et créatrice pour notre société.
La News Dei, extrait du Requiem de Giuseppe Verdi, version Carlo Maria Giulini en 1964, avec entre autres solistes Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, mais il y avait aussi pas loin Nicolas Hegeda ou Nicolas Egorov.
Alain Badiou, philosophe et mélomane, Lionel Esparza, France Musique.
Alors, je ne sais pas si du point de vue de l'opéra, j'ai pris l'extrait du Requiem de Verdi qui est le plus significatif. On sait que c'est une œuvre qui tend vers l'opéra. On retrouve ce que vous nous disiez à l'instant, Alain Badiou, à la fin du 19e, finalement, la théâtralité, cette théâtralité lyrique, contamine tout jusqu'à l'église.
Oui, mais il faut reconnaître aussi que le Requiem, de ce point de vue-là, est un texte exceptionnel, vraiment. Mmh. Hein. Probablement, on ne sait pas très bien d'où il sort, qui l'a écrit, c'est un peu une énigme. Et c'est un texte qui doit avoir par lui-même, je pense, une potentialité dramatique exceptionnelle. Mmh. Parce que tout de même, Mozart, Berlioz, Verdi, Fauré, Dvorak, c'est beaucoup pour un seul texte. Mmh. C'est quand même un palmarès extraordinaire. Et ce Requiem a attiré quand même les musiciens de façon remarquable. Et je pense que c'est parce que il a en effet lui-même une dimension d'opéra, en réalité. C'est un opéra en oratorio, ou un oratorio en opéra. Et ça parce que il y a des actes successifs, en réalité, qui représentent une espèce d'ascension. Et puis, la combinaison imposée, si je puis dire, immédiate, c'est celle du chœur de l'orchestre et des solistes. Donc on a tout le panorama de la musicalité opératique. De sorte que, effectivement, au 19e, je pense, cette dramaturgie issue et concentrée dans l'opéra se répand un peu, et le Requiem en est une espèce de forme concentrée. De tous ces Requiem, qui sont tous des chefs-d'œuvre, d'une certaine façon, celui de Verdi est le plus proche de l'opéra, mais par là même, il acquiert quand même une intensité, une force tout à fait exceptionnelle. C'est à mon avis un des grands chefs-d'œuvre de Verdi, ce Requiem. C'est quelque chose dans lequel il est arrivé, dans une forme moins dramatisée mais plus concentrée, à des résultats vocaux, orchestraux, vraiment stupéfiants.
Ça m'étonne quand même de vous voir aimer l'opéra italien, Alain Badiou, parce que on a parlé de vous, évidemment, de votre culture musicale, comment elle s'est construite, le wagnérisme qui a été fondateur, comment on passe de Wagner à cette chose un peu futile, un peu secondaire, qu'est le grand opéra italien du 19e.
Ben, je crois que la médiation, c'est le théâtre. Le théâtre a occupé dans ma vie une position tout à fait importante. J'ai pensé être à un moment donné comédien, ça a été une de mes virtualités dans mon adolescence. J'ai joué moi-même sur scène plusieurs fois, y compris le rôle principal du Scapin de Molière, etc. Et donc le théâtre est une composante, j'écris des pièces de théâtre jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le théâtre m'a conduit à aimer dans l'opéra autre chose que Wagner. Non pas que Wagner ne soit pas du théâtre, nous l'avons dit, et nous le reverrons tout spécialement peut-être la prochaine fois. Il y a une théâtralité wagnérienne. Mais si on aborde la musique du point du théâtre, comment contourner la grande tradition de l'opéra proprement dit, de Monteverdi à Berg, en passant évidemment par les Italiens, parce que sans les Italiens, tout de même, que serait l'opéra après tout, hein. Si on soustrait Verdi, si on soustrait Puccini, le répertoire d'opéra bascule quand même dans autre chose que ce qu'il est. Et donc, quelles que soient les réticences qu'on puisse avoir envers le mélodrame, qui constitue quand même l'arrière-plan de cette théâtralité italienne, il faut quand même aller voir, et quand on va voir, on rencontre quand même de grandes beautés.
Question qui était implicite à ce que j'étais en train de dire à l'instant, la culture haute, la culture basse, l'idée qu'il y a des œuvres nobles, et Wagner fait partie dans l'idée qu'on a de la musique aujourd'hui, des œuvres nobles, élevées, l'art spirituel à la fois, et compliqué, complexe, enfin combinatoire, tout ce qu'on veut, et puis l'art plus simple, plus facile, qui serait représenté par l'opéra italien. On retrouve quelque chose qu'on a peut-être déjà suggéré dans cette émission, Alain Badiou, c'est qu'aujourd'hui, la différence est grande, mais ça n'a pas toujours été le cas entre les deux.
Oui, nous en avons déjà dit un mot. Je pense que la musique s'est montrée capable d'envelopper le bas et le haut dans un certain processus de continuité. Et on est injuste à l'égard de l'opéra italien lorsque on le considère comme étant exclusivement du côté de la bassesse mélodramatique et de l'audition populaire. En réalité, si on regarde de près quelques critiques que l'on fait, il y a dans Puccini des inventions orchestrales tout à fait remarquables et tout à fait novatrices. Verdi est capable d'inventions prodigieuses, etc. Et donc, en fin de compte, la supériorité relative de l'opéra italien provient de ce qu'il arrive à intégrer le bas et le haut dans une formule qui, au fond, est acceptable pour tout le monde. Mmh. Il réunit tout le monde. Wagner n'y est pas complètement parvenu. Il est resté quand même un peu dans l'aristocratie des hiérarchies esthétiques. Et il peut être légitimement considéré parfois comme ennuyeux, ésotérique, etc. Les Italiens ont réussi quand même. Et j'ai été frappé de le voir quand je suis allé dans les arènes de Vérone.
Ah, vous étiez là-bas aussi?
J'étais là-bas, oui. J'étais dans les arènes de Vérone. Dans les arènes de Vérone, vous avez quand même un public massif, largement populaire, ordinaire. Vous avez un rassemblement de tout le monde. Et les gens sont des connaisseurs. Là aussi, je retrouvais un peu le Capitole de Toulouse, mais à très grande échelle. Ils sont connaisseurs, ils reconnaissent, ils connaissent les opéras, ils ont un jugement sur les artistes. Et je me disais tout de même, là, cette sorte de cérémonie massive et populaire que représentent les opéras dans l'enceinte de Vérone, eh ben, c'est une chose significative, c'est une chose importante, et c'est à l'honneur de l'opéra italien.
Vous avez nommé Puccini à l'instant, Alain Badiou, on va l'entendre ici dans une scène, puisqu'on parlait de théâtralité, qui elle est ô combien une scène de torture, pas moins.
Quella prova, Roberti, ripiglio!
Au deuxième acte de la Tosca de Giacomo Puccini, c'était la scène de torture de Mario par les sbires de Scarpia. Floria juste à côté qui finit par avouer ce que Scarpia voulait savoir. Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi. Dans cette version de 1953 signée Victor de Sabata, c'est absolument bouleversant ce que vient d'entendre Alain Badiou, hein, ce qui se passe là.
Ça s'insère en plus dans une vision tout à fait particulière à Puccini. Puccini, c'est au fond, c'est le musicien et le dramaturge du Malheur des femmes.
Hein. Oui.
C'est celui qui décrit en profondeur, malgré tout, et avec une espèce de sympathie violente, comme ça, le fait que les femmes sont maltraitées, exposées à des choses terribles, et malgré tout, on a, entre cette scène-là, voilà, la mort de Bibi à la fin de la Bohème, et la plus épouvantable de toutes, qui est tout de même le sort fait à la colonialisée japonaise. Tout ça décrit tout de même de façon continue le malheur des femmes au XIXe siècle. Je pense, en l'écoutant, à Rimbaud, quand Rimbaud dit « Mais quand donc finira l'éternel servage de la femme ?» Et je pense que c'est entre ce Rimbaud qui dit ça et la musique de Puccini, il y a un rapport profond. Et alors, il trouve pour cela une dramaturgie très particulière, parce que on a souvent remarqué que ce qui caractérise Puccini, c'est en fait qu'il y a, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a peu d'air. Il n'y a pas de grands airs chez Puccini. Puccini, au fond, suit de très près le drame lui-même, et sa musique colle sur des dialogues, des interventions, des cris, des scènes terribles, mais sa musique court à travers tout cela et elle ne laisse pas le temps d'exposer quand même placidement la virtuosité vocale des interprètes. C'est pour ça que les grandes chanteuses de Puccini, à commencer par la Callas que nous venons d'entendre, il faut que ce soit des actrices dramatiques véritables. Puccini n'est pas vraiment supportable lorsqu'il n'est pas joué aussi. Il faut jouer cette représentation symbolisée et magnifiée de la grandeur féminine dans la douleur elle-même, qui est quand même le grand sujet de Puccini.
Je ne rêve pas, là, Badiou, vous nous avez bien raconté dans une émission antérieure que, tout jeune, lorsque vous étiez aux têtes du Capitole de Toulouse, vous voyiez des opérettes tous les dimanches, vous étiez tombé une fois sur la Tosca et que ça ne vous avait pas vraiment bien plu. Comment vous en êtes venu finalement à aimer Puccini?
Après la conversion dont finalement Così fan tutte a été l'origine involontaire, ouais. Après ma conversion à l'opéra proprement dit, et quand je me suis rendu compte, par la médiation du théâtre, qu'en fin de compte, cet opéra italien, conduisant finalement au mélodrame et à la tragédie de l'opéra italien, c'était une fusion très particulière de la théâtralité et de la musique, qui était une invention de ce siècle-là, du 19e siècle, et qu'il fallait la suivre, y compris dans sa capacité à faire entendre, en réalité, de la grande musique à des gens qui n'y sont pas disposés à cela, mais que la dramaturgie théâtrale va convaincre de l'écouter quand même. Voilà. Et je pense que c'est typiquement le cas de Puccini et du Grand Verdi. Et ce sont des musiciens qui sont arrivés, paradoxalement, à être populaire dans le grand art. Voilà, ils y sont arrivés, il faut le reconnaître. Et ça, c'est autre chose que l'itinéraire wagnérien, mais ça ne doit pas lui être opposé.
Vous avez eu une formule il y a un instant, la colonisée japonaise, c'était bien sûr pour Butterfly, histoire de souligner que chez Puccini, qu'on renvoie, pour reprendre encore les termes que vous utilisiez tout à l'heure, au mélodrame, très très souvent, il y a quand même un point de vue politique qui est très fort, pas seulement la place de la femme, mais enfin, Mimi, par exemple, c'est un acte social, cet opéra.
Ah mais tout à fait, quand je dis le malheur de la femme, c'est un malheur qui est socialement déterminé, ce n'est pas du tout une espèce de métaphysique du malheur féminin. La mort de Mimi dans la Bohème, c'est la façon dont en réalité les jeunes bourgeois étudiants qui sont en goguette utilisent pour leur propre satisfaction les femmes du peuple. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Son traitement de Manon dans Manon Lescaut, très intéressant d'ailleurs que comparer ouais. La Manon de Massenet et la Manon de Puccini. Mais Manon Lescaut chez Puccini, c'est traité de la même manière. c'est quand même, finalement, elle est en définitive une victime de l'ordre social dominant, et elle n'arrive pas à se débrouiller, finalement, entre les nécessités financières, la prostitution, l'amour, etc. Elle est prise, elle est déchirée là-dedans. Et évidemment, Tosca, c'est aussi la victime de la passion amoureuse, prise dans les jeux de pouvoir et dans le conflit politique très violent qui est en train de se passer, et dont elle n'est pas partenaire à proprement parler, mais dont elle va être, en fin de compte, la tragique victime. Donc vous avez tout à fait raison. Puccini, de ce point de vue-là, c'est une vision politique des raisons pour lesquelles il y a le malheur des femmes.
Mmh. Et vision politique qui est éventuellement aussi sur la politique de son temps, parler de colonisation avec Butterfly.
Ah ben absolument. Moi, je suis toujours frappé par l'extraordinaire violence anticoloniale, anti-impériale de Madame Butterfly. Il n'y a pas tellement d'exemples, malgré tout. Et le personnage de Pinkerton est dégoûtant, véritablement. Et il est arrivé à faire cette chose extraordinaire que dans la scène d'amour elle-même, au premier acte, quand il lui dit « viens, viens », etc., etc., il y a quelque chose qui est obscène. Il y a quelque chose, il y a une sourde obscénité là-dedans. Alors elle est passionnément amoureuse, elle va se rendre. Mais on sent que dans sa réticence, il y a déjà quelque chose qui est un élément, en fait, social et politique, et pas simplement sexuel. Et c'est pas une réticence puritaine. C'est une réticence, elle a comme une conscience sourde qu'elle va s'engager là-dedans dans quelque chose qui est quand même peut-être ténébreux et difficile, et que elle sent au fond un petit peu, et la musique le dit, ça, elle sent un tout petit peu que lui est peut-être un profiteur de la situation, plutôt qu'un amant véritable. Et je crois que ça, Puccini sait rendre ce genre de situation.
C'est pas cet épisode-là qu'on va entendre ici, mais la fin, le final donc de Madame Butterfly.
Oh, terrible, terrible.
Andrea Gavazzini fait la baguette en 1954 dans ce final de Madame Butterfly de Puccini. La voix de Chiocio Zan, c'était Victoria de Los Angeles. Je ne sais pas s'il faut nommer ce vilain Pinkerton, si tout de même pour les quelques phrases finales, c'était Giuseppe Di Stefano. Merci à Nelly Portal, Philippe Petit et Delphine Baudet. On vous retrouve avec Alain Badiou, philosophe et mélomane, dimanche prochain pour notre épisode 7, Retour à Bayreuth.
À réécouter sur francemusique.fr.